Bonsoir à tous. Je me battrai jusqu'à la victoire. Anne Hidalgo annonce un projet de reconquête après avoir donné rendez-vous aujourd'hui à Lille à la famille socialiste pour donner aussi un nouvel élan à sa campagne. Discours de 40 minutes devant un millier de militants et une unité affichée derrière Anne Hidalgo. Seule alternative pour les socialistes face à Macron et à l'extrême droite. Nous serons à Lille dans un instant. Une nouvelle encourageante dans la lutte contre le cancer du sein. La recherche enregistre des progrès. Un nouveau traitement innovant contre les cancers du sein très agressifs sera disponible dès le mois prochain en France, en attendant d'autres thérapies. Le président britannique de la COP26 guerre optimiste à une semaine de l'ouverture du sommet climat de Glasgow. Il sera plus difficile, dit-il, de parvenir à un accord à l'issue de la COP26 que lors de la COP21 et le sommet de Paris en 2015. Dans ce journal également, un nouveau rapport dénonce les exactions des talibans en Afghanistan et nous irons à la foire d'automne à Paris. Cela faisait 2 ans que la capitale n'avait pas accueilli la manifestation. Le temps pour demain, du soleil partout sauf en Bretagne. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Le rendez-vous politique du jour à gauche avec à Lille, la famille socialiste rassemblée derrière Anne Hidalgo. Devant plus d'un millier de militants lors de son premier meeting, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle se battra jusqu'à la victoire. La candidate socialiste a également fixé des objectifs sans livrer un programme détaillé pour les socialistes et Anne Hidalgo. Une nouvelle étape s'ouvre dans une campagne qui peine à démarrer. Sur place à Lille, on retrouve notre envoyé spécial en direct, Antoine Gignot. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Alors, est-ce que le nouvel élan escompté dans la campagne par les socialistes et Anne Hidalgo a fonctionné aujourd'hui ?
On peut dire que l'ambiance, en tout cas, était en rendez-vous avec une ligne de conduite un peu nouvelle. Une femme qui portera attention aux femmes. Voilà le discours d'Anne Hidalgo qui promet un accès renforcé à la garde d'enfants pour les familles monoparentales, des mesures spécifiques et une loi pour renforcer l'égalité salariale dès l'an prochain.
Pour celles et ceux qui souffrent de violence ou de discrimination, pour celles qui élèvent seules leurs enfants, pour celles qui travaillent dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos entreprises, en première ligne. Je suis là, je me bats pour ça, je me battrai et je me battrai pour vous jusqu'à la victoire.
La candidate socialiste propose aussi pêle-mêle de développer une assurance chômage universelle, revenir sur la suppression des lits d'hôpitaux, légaliser l'euthanasie, revaloriser les salaires. Et pour mieux s'assurer du soutien de la famille socialiste, elle s'appuie sur l'héritage du parti, évoque les grandes conquêtes sociales soutenues à la tribune par la maire de Lille, Martine Aubry.
Toi qui portes tous nos espoirs, il n'y en a pas d'autres dans les candidats qui ont travaillé comme toi sur le terrain pour se battre pour les conditions de vie, les conditions de travail des gens. Anne, tu peux compter sur nous. Et là, je le dis à tous les socialistes, le soutien ne compte que s'il est plein et entier. Et comptez sur moi si pour certains, il ne l'est pas. Nous sommes tous derrière toi, tous, Anne.
Autrement dit, plus de place pour les voix dissonantes. Cette fois-ci, la campagne est réellement lancée, assurent les proches d'Anne Hidalgo.
Antoine Gignot en direct de Lille et en ce mois d'octobre rose maintenant, destiné à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, la recherche avance et enregistre des progrès. Des centaines de femmes atteintes d'un cancer du sein très agressif auront accès dès le 1er novembre à un traitement innovant qui allonge la durée de survie de plusieurs mois. Un espoir en attendant d'autres thérapies. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Et si on pense communément que le cancer du sein se soigne bien désormais, ce n'est pas le cas du cancer dit triple négatif qui touche environ 15% des patientes, souvent plus jeunes que la moyenne, soit 9000 nouveaux cas par an.
Oui, quand il est pris à temps, les femmes atteintes de ce cancer peuvent en guérir. Malheureusement, le taux de survie dans le cas d'une rechute est extrêmement bas et c'est à ces femmes en échec thérapeutique que s'adresse ce traitement. Il s'appelle le Trodelvy, des anticorps conjugués, explique Delphine Loira, oncologue médicale à l'Institut Curie.
C'est des nouvelles façons de formuler des traitements anticancer notamment, où on peut coller à un anticorps de la chimiothérapie. Donc en fait, l'anticorps va reconnaître la cellule tumorale par un récepteur et donc va emmener la chimiothérapie qu'il porte au niveau de la cellule tumorale.
Alors jusqu'ici, ce traitement n'avait reçu que des autorisations temporaires d'utilisation nominative, c'est-à-dire qu'un peu moins de 80 patientes ont pu y accéder cette année. À partir du 1er novembre, toute femme répondant aux critères pourront le recevoir. Le Trodelvy ne permet pas de guérir de ce cancer, mais selon une étude internationale, il rallonge la vie des patientes.
On a comparé l'efficacité de cette molécule à de la chimiothérapie, ce qu'on appelle standard, et on a montré que ça augmentait à la fois ce qu'on appelle la survie sans progression, c'est-à-dire le temps d'efficacité du médicament sur la maladie, mais surtout ça a permis d'augmenter la survie des patients, donc ça permet aux patients de gagner des mois de vie. Ça reste très modeste à l'échelle d'une vie de gagner des mois de vie, mais pour les patients c'est un vrai progrès.
Quelques mois précieux qui permettent d'attendre aussi d'autres traitements encore plus prometteurs comme l'immunothérapie.
Hélène Chevalier, merci. Concernant l'épidémie de coronavirus en Nouvelle-Calédonie, l'obligation vaccinale dans les secteurs sensibles comme la santé et les transports a été prolongée jusqu'au 31 décembre. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont trouvé un accord ce matin. La Nouvelle-Calédonie est frappée depuis le mois dernier par une flambée de l'épidémie de Covid-19. Et puis en Europe, en Allemagne, les chiffres des contaminations ne sont pas bons. Le taux d'incidence en Allemagne est remonté à 100 cas pour 100 000 habitants au plus haut depuis la mi-mai. Démantèlement d'un vaste trafic de cannabis. Coup de filet a permis ce matin la mise en examen de 12 personnes et la saisie d'une tonne de cannabis et de 690 000 euros. Le réseau approvisionnait en drogue une cité de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé et de l'Office anti-stupéfiant ont procédé lundi à une vague d'interpellations en Seine-Saint-Denis et dans l'Oise. Et au terme d'une enquête démarrée il y a 2 ans, David Di Giacomo.
Après un long travail de surveillance pour identifier l'ensemble des acteurs de ce réseau très structuré, les enquêteurs de la police judiciaire lancent leur opération mardi dernier. Ils saisissent une tonne de résine de cannabis dissimulée dans 2 boxes de garage du Val-de-Marne. Les perquisitions leur permettent aussi de retrouver 600 000 euros en espèces. La drogue était principalement destinée à approvisionner des points de deal d'une cité de Bobigny. C'est une équipe très mobile qui vient d'être démantelée par l'Office anti-stupéfiants et l'Office de lutte contre la criminalité organisée, explique le parquet de Bobigny. Après ce coup de filet, l'enquête se poursuit pour déterminer si la drogue était vendue ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis.
David Di Giacomo, à une semaine de l'ouverture de la COP26 le 31 octobre à Glasgow, l'alerte aujourd'hui du président britannique du sommet sur le climat, Alok Sharma, n'est guère optimiste sur la capacité des 200 pays qui vont se réunir à se mettre d'accord sur les règles pour limiter le réchauffement climatique. Selon le président de la COP26, il sera plus dur de parvenir à un accord mondial à l'issue du sommet de Glasgow que lors de celui de Paris en 2015. Les explications à Londres, Laura Calmus.
Il ne reste plus que 8 jours avant l'ouverture de la COP26 et l'inquiétude de son président flotte déjà dans l'air. Selon lui, si l'objectif de la COP21 était bien déterminé, à savoir réduire les émissions carbone et un réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés, de nombreux détails ont été laissés pour l'avenir et les décisions les plus compliquées n'ont toujours pas été prises. En 6 ans, les relations que Londres et Washington entretiennent avec la Chine et la Russie se sont dégradées. L'absence des présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine est quasi certaine, d'autant plus que la Chine, plus gros pollueur mondial, n'a toujours pas envoyé ses plans de contribution pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour le président de la COP26, Glasgow n'est toutefois pas le dernier recours, mais une nouvelle opportunité pour renforcer les engagements des pays. Le gouvernement britannique aura jusqu'au 12 novembre pour convaincre les près de 200 pays participants et parvenir à un accord mondial. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Et avant la COP26, de son côté, l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde et l'un des plus grands pollueurs également, annonce viser la neutralité carbone d'ici à 2060. Le royaume saoudien a aussi fait savoir qu'il participerait aux efforts internationaux pour réduire les émissions mondiales de méthane, gaz à effet de serre, de 30% d'ici 2030. À l'étranger encore, en Afghanistan, et ses nouvelles accusations contre les talibans après les meurtres d'opposants, la traque des journalistes, l'interdiction faite aux femmes de travailler et aux jeunes filles d'étudier, un rapport dénonce les expropriations forcées et les vols des terres de la communauté chiite Hazara. 5 provinces sont concernés par ces exactions. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch révèle aussi que des fonctionnaires qui travaillaient pour le gouvernement précédent sont eux aussi dépossédés de leurs biens. Marie-Pierre Véraud.
La minorité chiite Hazara est déjà persécutée par Al-Qaïda et Daesh. Les talibans ont eux entrepris de s'emparer de ces terres pour les redistribuer à leurs partisans. Plusieurs milliers de familles sont déplacées de force. La plupart n'ont eu que quelques jours pour quitter leur maison ou leur ferme sous la menace et sans aucun recours légal. Karim Pakzad est chercheur à l'IRIS.
L'expulsion des Hazaras chiites en était commencée d'abord dans le centre du pays. Ensuite, les talibans ont élargi cette politique ailleurs en Afghanistan, notamment dans le nord où ils ont expulsé quasiment la totalité d'une petite ville des chiites sous prétexte qu'ils ont construit illégalement.
Sur les routes à la sortie des villages, des points de contrôle pour vérifier qu'ils n'emportent rien, pas même le produit de leur récolte. Ces expulsions interviennent en effet en pleine période de moisson qui permet traditionnellement aux fermiers de payer leurs dettes et de faire des stocks pour l'hiver. Human Rights Watch dénonce des punitions collectives sur la base d'appartenance ethnique ou d'opinion politique.
Marie-Pierre Véraud, le début d'une nouvelle crise avec la Turquie. Le président turc Erdogan menace d'expulser 10 ambassadeurs, dont ceux de France, d'Allemagne et des États-Unis. Les diplomates avaient publié un communiqué conjoint appelant à la libération d'Osman Kavala, l'opposant et mécène, emprisonné sans jugement depuis 2017 et bête noire du gouvernement turc. Le président Erdogan a qualifié d'indécent ce texte des ambassadeurs en les déclarant persona non grata, sans donner de date précise. Le retour de la foire d'automne à Paris, les camelots trépignaient d'impatience. Cela faisait près de 2 ans que la capitale n'avait pas accueilli une telle manifestation. La foire d'automne a ouvert ses portes aujourd'hui et jusqu'au 1er novembre. Plus de 450 exposants et inventeurs sont réunis porte de Versailles et les visiteurs sont au rendez-vous, sa Bergin d'Oubli.
Nathalie et Christine ont le sourire dans les yeux. Les deux copines sont heureuses d'être de retour à la foire d'automne.
Celle qui m'entraîne.
Chaque année, on vient.
Je vais partir à Rambouillet, je me retrouve encore ici. Mais en fait, c'est très intéressant. Il y a un contact humain et en plus, on nous explique les produits. Et sur Internet, des fois, on n'explique pas. Donc, c'est peut-être moins tentant.
Car on peut tout acheter à la foire d'automne. Des canapés, des cuisines, des bijoux, des pots de fleurs. On peut manger aussi et surtout se laisser subjuguer par les bonimenteurs et les inventeurs du concours Lépine.
Je trouve ça génial, hein, c'est génial. Ouais,
c'est tout à fait une bonne idée.
C'est génial. Parce qu'il y a une nouvelle surprise.
Voilà, c'est ça.
Et le public semble être au rendez-vous cette année, se félicite Steven Abajoli, directeur de la foire d'automne.
Aujourd'hui, au lendemain de cette crise, on ressent vraiment un engouement des Français de retourner sur des formats physiques, d'agaga rencontres physiques. Des exposants, des marques pour découvrir leurs innovations, leurs créations, pouvoir les toucher, pouvoir être étonné. C'est avant tout passer un bon moment, se retrouver.
Ouverte jusqu'au 1er novembre, la foire d'automne espère accueillir plus de 80 000 visiteurs.
Et pour cette édition, la foire d'automne accueille aussi le 12e anniversaire du concours Lépine avec plus de 300 inventions. Un mot de football avant le match Marseille-PSG. Demain dimanche, l'attaquant brésilien Neymar est de retour dans le groupe. Le buteur argentin Mauro Icardi, qui traverse des difficultés conjugales, est également dans le groupe parisien pour le classique de Ligue 1 où aime PSG demain soir à 20h45. Et puis cet après-midi, Nantes a battu Clermont 2-1. Nantes occupe la 5e place provisoire. Au classement, le temps pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Jean-Michel Golinski.
Après un début de journée souvent bien frais, marqué par des gelées blanches en campagne, avec 0 à 4 degrés sous abri sur les régions de l'intérieur, voire jusqu'à moins 1 sur la Champagne, cette journée de dimanche, après la dispersion des rapides, des brouillards sera souvent bien ensoleillée, sauf dans le golfe du Lion, où les entrées maritimes seront tenaces sur les côtes du Languedoc et du Roussillon. Et puis sur la pointe ouest, l'arrivée d'une perturbation perte de vitesse va donner un ciel maussade le matin sur le Finistère, puis jusqu'au Pays de la Loire et la Basse-Normandie en fin de journée. À l'avant, le voile nuageux va s'épaissir progressivement pour toucher un axe Calais-Chartres-Angoulême en soirée. Le tout l'après-midi dans un air souvent un peu plus doux qu'aujourd'hui, avec 16 prévus à Paris et à Cherbourg, 17 à Rennes, Nevers et Mulhouse, 19 à Lyon et Limoges et 20 à 24 sur les régions méridionales.
Jean-Michel Golinski de Météo France.